Travailler reproductif, c'est des métiers essentiels, importants, basiques. Comme on a dit, le ménage, si on ne fait pas le ménage dans les bureaux, les gens ne peuvent pas y travailler.
Bonjour à toutes et à tous, toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen. 2 heures chaque après-midi pour décrypter l'air du temps à travers ses mots, ses concepts. Et aujourd'hui, en préparant cette émission, je dois l'avouer, j'ai ressenti très fort le syndrome de l'imposteur. Pourquoi ?
T'es qu'un con, et puis t'es cocu, et t'en demandes !
Non Quentin, je vous ai dit, si vous avez du ressentiment à mon égard, vous me le dites hors antenne. N'allons pas laver notre linge sale comme ça en public. Non, si j'ai ressenti très fort le syndrome de l'imposteur en préparant cette émission, c'est que nous allons aujourd'hui zoomer sur la notion de travail reproductif. Préparer les repas, faire le ménage, s'occuper des malades, élever les enfants, autant d'activités sans lesquelles notre société ne pourrait tout simplement pas fonctionner. Et pourtant, de la mère au foyer à l'infirmière en passant par la femme de ménage, ces professions sont parmi les moins valorisées socialement et financièrement. D'où cette question qui m'a sauté au visage ce matin. Comment se fait-il que je gagne tellement plus que ma sœur qui est AESH, accompagnante d'élèves en situation de handicap à l'école, alors que l'essentiel de mon métier consiste quand même grosso modo à passer les plats à des invités plus savants que moi, tout en apportant une touche de fantaisie qui se résume souvent à glisser dans mes lancements que Quentin adore.
La bouillarde.
Quelle est donc cette société où Quentin va démarrer le quiz avec 2 points de pénalité. Mais quelle est donc cette société où un guignol qui plus est suisse barbu et autocentré est plus valorisé qu'une personne qui consacre sa vie à aider des enfants handicapés? Et si c'était le signe qu'il y avait, comme dirait Cyril, une couille dans le potage de notre beau système capitaliste? C'est ce qu'on va voir cet après-midi en analysant cette notion de travail reproductif, ce travail presque invisible, parfois même pas considéré comme du travail, et qui pourtant est largement plus essentiel à la survie de l'espèce que des vannes sur la sexualité de Quentin, lui. Zoom Zoom Zen, c'est parti. Moins 2, j'ai bien noté.
Ça va, vous me faites toujours autant rire.
Oui, bien sûr. Mais avec quelques répétitions néanmoins.
Il a pas fait des points en plus.
Ah bah ça, je sais. C'était gratuit.
Florence Janicatrice, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Florence, vous êtes économiste, chercheuse à l'université de Rouen, en Normandie, une ville qu'on adore. Rouen, on y était l'autre jour. Et vos travaux se concentrent essentiellement sur la socio-économie des services et sur l'économie de la qualité, l'emploi des femmes dans les activités dites de service à la personne et les activités du care, un mot qu'on emploie beaucoup. C'est justement dans ce secteur qu'on retrouve ce travail reproductif. De quoi s'agit-il précisément? Vous allez tout nous expliquer durant cette heure qu'on va passer ensemble. Juste le temps de vous présenter des travailleurs absolument indispensables. C'est en tout cas ce qu'ils ont essayé de faire croire à Céline Pigalle, nouvelle directrice bientôt d'Inter, en lui écrivant ce week-end, je cite, « Bonjour Céline, hâte de travailler avec toi. PS, tu sais, Zoom Zoom, c'est surtout nous. Le Suisse est plutôt jeune, il commence à perdre la boule. Il est peut-être temps qu'il passe la main. » Signé Manon Mariani. Quentin, lui, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
C'était pas un mail, un vocal, mais...
Oui, c'est... voilà. On est...
Vous êtes moderne, évidemment.
On est avec notre
comme
temps.
Moi, c'est ça que vous voulez souligner. Moins 3 points. Manon, chaque après-midi, outre ourdir des complots contre votre producteur, vous nous livrez une pièce jointe.
Et aujourd'hui, je vous parle d'un film, mais aussi d'un livre, l'un est l'adaptation de l'autre, une immersion dans le milieu précaire des femmes de ménage dans le Calvados.
Face à vous, Florence, je vous laisse me dire, si quelqu'un qui imite Vianney, Jean-Pierre Coff et Maïté peut être considéré comme exerçant un rôle crucial dans la société.
Je suis une cruche.
C'est de la merde.
L'entrecôte, je peux vous dire, le matin après le New Morning, il n'a pas mis entre les côtes.
Oh là là.
Quentin, heureusement, vous avez un autre métier qu'imitateur. Hein. C'est micro-trotteur, votre vrai métier. Quand même. Rassurez vos proches. Chaque après-midi, vous partez à la rencontre des passants pour les faire réagir à notre notion du jour. Vous avez moins rigolé dans la rue.
Le travail reproductif, alors, oui. Certains ont compris au début qu'on faisait une émission sur le réarmement démographique, une sorte de bouillave sous toutes ses formes. Ils ont vite déchanté. Avons-nous conscience que pour que l'on puisse nous travailler, il y a avant nous tout un tas de métiers qui nous permettent de le faire dans de bonnes conditions? On en a parlé. On a parlé première ligne dans la rue. Et je vous le raconte avant 16h30.
Même chez ceux qui exercent un travail reproductible, il y a une aristocratie. Vers 16h30, le Zoom Zoom Test sera consacré au monde merveilleux des majordomes et autres employés des grandes ce monde qui, vous verrez, ont parfois des exigences étonnantes, bien au-delà en tout cas de celles de notre rédacteur en chef qui, lui, se contente de réclamer son café à Gérald en faisant tinter une petite clochette.
Gérald, café.
Ça a été coupé.
Après 17h.
Ça a été monté avec Gisela.
Qu'est-ce que c'est que
ça? Ça a été certainement monté avec les pieds, comme on dit.
Oui.
Après 17h, restez bien avec nous, les amis. On recevra une star du petit écran. 20 ans qu'elle présente l'émission préférée de Manon, L'amour est dans le pré. Karine Le Marchand.
Jamais regardé, mais.
Non, c'est vrai. Confondu, alors.
Mais on a hâte, bien sûr.
Évidemment, Karine Le Marchand vient nous présenter son nouveau documentaire consacré aux clichés racistes qui perdurent dans notre société. Mais d'abord, Florence, Jeannie, Catrice, ensemble, on va donc zoomer sur notre notion du jour. Est-ce que ce travail reproductif dont on va parler, c'est ce qu'on appelait, Quentin a commencé à le dire, les premières lignes pendant la pandémie Covid, pour bien comprendre?
Pendant la période Covid et de la pandémie, il y a eu en effet toute cette visibilisation de tas d'activités qui ont été considérées comme absolument essentielles et dont on ne pouvait pas se passer, contrairement peut-être à certains métiers autour de la table, j'en sais rien, mais comme des tas de métiers qui, a fortiori, pouvaient se faire en télétravail et qui nécessitaient une grande intensité relationnelle. Et en effet, il s'agissait des activités de soins. Maintenant, considérer que les activités de soins épuisent la question du travail reproductif, non, je ne le pense pas. Mais en effet, c'est l'intérêt de cette période, qui a été quand même une période épouvantable, c'est d'avoir braqué le projecteur sur une activité qui est très invisibilisée et qui est particulièrement indispensable, finalement, pour la survie de l'espèce, en quelque sorte.
Lui, il a énormément de respect pour les gens qui exercent un travail reproductif. Chaque après-midi, quand il se cale les pieds en l'air sur son bureau pour sa sacro-sainte sieste post-blériot, après avoir envoyé un bisou volant à Jacques Chirac, dont le poster trône au-dessus de son bureau, avant de s'assoupir, il lance un dernier regard à Gérald, mon auteur multitâche, dont il sait qu'à son réveil, il aura déjà préparé son café. Il se dit « Il est sympa quand même ce Gérald ». Cyril, maintenant, vous avez eu votre dose. Pardon, mais je viens de découvrir votre chandail.
Oui, c'est vrai.
Vous venez de l'enfiler, Cyril.
Ça va hyper bien.
Parce que je ne l'ai pas remarqué alors qu'on a passé la journée ensemble. Et là,
ensemble, mais vous me regardez.
Vous êtes
je vous ai donné mes plus belles années.
Vous portiez ça tout à l'heure?
Ben oui, depuis ce matin.
Et vous allez au château ce soir? Qu'est-ce qui se passe?
Posez votre question.
C'est vraiment étonnant comme tenue.
Quelle question?
Ça a été validé par madame?
Ah, mais oui.
Cyril, maintenant que vous avez eu votre dose de caféine, racontez-nous.
Moi, j'ai pas besoin d'un avis sur tout là à la maison.
Ah oui, vous débrouillez tout seul. Vous êtes un homme libre et indépendant.
Que je me lève.
Maintenant, on rappelle votre édito dans la matinale. Il est 16h11. Vous revenez pour nous sur les origines de cette notion de travail reproductif. D'où ça sort, Cyril?
Imaginez. Dans l'Europe du XVIe et du XVIIe siècle, on brûle des femmes sur les places publiques. Dans les livres d'histoire, on nous parle de sentences religieuses. Mais si c'était en fait une opération politique, rationnelle et planifiée? C'est la thèse de la philosophe italo-américaine Silvia Federici dans son livre paru en 2004, Caliban et la sorcière. Federici revisite Marx. Lui expliquait que pour initier le capitalisme, on avait commencé par voler les terres des paysans pour les forcer à aller à l'usine, permettant ainsi aux puissants d'accumuler argent et terre, ce que Marx appelle l'accumulation primitive. Silvia Federici ajoute un maillon essentiel à cette analyse. Pour faire tourner les usines, il ne fallait pas seulement des terres, il fallait aussi des bras. Il fallait des ouvriers et même beaucoup d'ouvriers. L'État devait alors contrôler la machine à produire des travailleurs, c'est-à-dire le corps des femmes. Et c'est comme ça que des femmes ont commencé à être brûlées dès lors qu'elles contrariaient ce plan implacable.
Mais cette notion de travail reproductif remonte à bien avant 2004. Quand même,
oui, en fait, Silvia Federici la forge en fait dès les années 70. La théoricienne explique que ce travail reproductif désigne l'ensemble des métiers qui permettent de maintenir les êtres humains en vie et d'aller au travail. La cuisine, l'éducation, le soin de manière générale. La philosophe oppose le travail reproductif au travail productif qui produit des biens et des services ayant une valeur monétaire dans le système capitaliste. Comprendre le travail reproductif, lui est mal considéré car ne produisant pas d'argent. Alors d'où ça sort ce travail reproductif? Eh bien d'une femme qui a mis de l'ordre dans le discours de Karl Marx et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Florence, Jeannie, Catrice, en écoutant cette chronique, je pense à la personnalité d'Ingrid Levavasseur, une des figures des Gilets jaunes à l'époque, aide-soignante qui élève seule ses deux enfants et qui touche moins de 1200 euros par mois. Pour vous, elle est vraiment typiquement le symbole du travail reproductif.
Oui, je crois qu'elle l'incarne doublement d'une certaine manière parce qu'elle l'incarne à la fois du fait qu'elle est famille monoparentale et qu'elle doit prendre en charge doublement toute la charge de la famille qui lui incombe, à la fois, comme vous le disiez tout à l'heure, faire la cuisine, s'occuper des enfants, de leur éducation, du ménage, enfin, ces tas de tâches totalement dévalorisées et qui sont d'ailleurs, on y reviendra, mais très mal partagées encore au sein du ménage. Et puis d'un autre côté, elle était aide-soignante. Et c'est une activité qui incarne là aussi, là sur le marché du travail, donc rémunérée, mais de manière relativement faible pour des raisons aussi sociales qu'on pourrait bien discuter. Et d'une certaine manière, en effet, on peut comprendre qu'une partie des Gilets jaunes est considérée que des taxes autour qui coupaient un peu leur pouvoir d'achat pouvaient être considérées comme un handicap.
C'est pour ça qu'il y avait beaucoup beaucoup de femmes qui étaient justement dans le mouvement des Gilets jaunes.
Absolument, parce qu'en fait, on a toujours une représentation du marché du travail où les personnes les moins qualifiées, au sens de la qualification qu'on peut donner ordinairement, sont toujours des hommes ouvriers et que ce sont eux les moins rémunérés. Mais en fait, le marché du travail s'est complètement transformé ces 30 dernières années. Et aujourd'hui, la figure vraiment dominante de la non-qualification, en tout cas des personnes mal rémunérées, ce sont des femmes à temps partiel travaillant dans des activités de service et très souvent dans des activités relevant de la reproduction sociale au sens où vous l'avez énoncé tout à l'heure.
On sait combien de personnes ça concerne, ce travail reproductif dont on parle cet après-midi en France?
Franchement, c'est une question très compliquée que vous me posez parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, le travail reproductif, en fait, ça concerne deux types d'activités, pour moi en tant qu'économiste. Mmh. Une partie des activités de personnes qui sont sur le marché du travail, dans le soin, dans l'éducation, dans la santé, et qui ont donc une rémunération, certes très faible et souvent dans des emplois à temps partiel et peu considérés, mais c'est le cas. Mais il y a aussi un énorme volant d'activités qu'on appelle de travail domestique,
qui
celui-là est non monétaire, non marchand, donc totalement invisibilisé dans les comptes de la statistique publique et dans les comptes nationaux, donc elles n'apparaissent pas dans le PIB, etc. Et là, il y a eu des estimations de fait, donc je vous en parle quand vous voulez, mais des estimations qui sont vraiment extrêmement volumineuses. C'est 60 milliards d'heures, c'est-à-dire il y a beaucoup plus d'heures de travail domestique que d'heures de travail salarié. Dans la société,
c'est monumental.
On est presque au double des heures de travail salarié. Donc c'est vraiment monumental.
Zim Zim Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Les petites mains du capitalisme, elles s'occupent des enfants, des vieux, elles travaillent dans les fameux métiers du care. Zoom aujourd'hui sur la notion de travail reproductif avec l'économiste Florence Janicatrice. Alors, on a listé pas mal de ces métiers, métiers de la santé, d'aide à la personne, le travail domestique aussi en fait partie. Pourtant, tout ça, ce sont des métiers, même si parfois on met des guillemets, parce que être femme au foyer, c'est pas un métier, mais c'est beaucoup de boulot. C'est des métiers qui sont essentiels à la société. Pourquoi pas? Comment, par quel biais, on a réussi à faire accepter que ces métiers aussi importants, ces fonctions aussi importantes, comme l'éducation de nos enfants, l'aide à la personne, la santé, l'entretien, soient aussi peu payés? Parce que j'ai l'impression que tout le monde s'est habitué à ça et on trouve ça finalement assez normal.
En fait, pour les activités du ménage, elles ont été toujours prises en charge par les femmes du fait d'une division du travail à l'intérieur de la sphère domestique sous une forme de patriarcat qui déléguait aux femmes une bonne partie de l'activité. Donc ça, c'est pour la partie domestique. Mmh. Pour la partie du marché du travail, alors les économistes un peu dominants, ils ont une vision un peu simpliste, me semble-t-il, puisqu'ils considèrent comme étant peu rémunérés, peu qualifiés ou peu qualifiés, donc peu rémunérer les activités qui sont très substituables ou que n'importe qui peut faire, d'une part, et donc avec des qualités ou des compétences assez peu reconnues, et ou bien des activités qui nécessitent peu de productivité, en fait. Hein.
Et donc, c'est ça, parce qu'en fait, reproductif, le terme, c'est l'inverse de productif. C'est-à-dire qu'on ne produit rien dans un travail reproductif.
Un travail reproductif au sens où les féministes l'ont déployé, c'est l'idée véritablement de dire que ce sont des activités qui sont absolument essentielles pour reproduire la force de travail. Ouais. Initialement, c'était ça. Et la reproduction de la force de travail, c'est en gros maintenir ou déployer les capacités pour être efficace sur le marché du travail. Donc il y a quelque chose d'assez téléologique, en quelque sorte, considérer que ces activités, elles sont là pour faire vivre le capitalisme et qui lui permettent de se déployer. Mais pour finir sur la première question, parmi les raisons pour lesquelles le travail de reproduction sur le marché du travail est si peu rémunéré, c'est qu'il est réalisé par les femmes. Et pour partie, on considère que les activités qui sont réalisées par les femmes mobilisent des compétences qui sont totalement naturelles.
Et quand on dit
compétences...
justement peu rémunérées, juste, on parle de combien concrètement?
Le problème, c'est de travailler toutes choses égales par ailleurs, parce qu'on ne peut pas vraiment comparer les travaux des hommes et des femmes, puisque précisément, les femmes sont dominent totalement ce type d'activité. Elles sont dans l'aide à domicile, elles sont 98%. Dans les métiers de soins infirmiers, elles sont 80%.
Et elles sont rémunérées combien par mois pour avoir elles sont, par exemple.
Dans l'aide à domicile, on est autour du SMIC. Hein, dans l'aide à domicile, c'est le SMIC. On a même des conventions collectives qui sont parfois en dessous du SMIC et donc sont vraiment les premiers niveaux de rémunération. Oui. Et le problème, c'est qu'une partie de ces activités sont faites à temps partiel, en travaillant tôt le matin, tard le soir, ce que vous allez aussi montrer sur Instagram. Et ce sont donc des activités où les femmes ont l'impression de de donner leur temps et leur vie au travail, alors même qu'elles sont officiellement qu'à temps partiel. Et cette naturalisation des compétences, elles sont évidemment liées au fait que on a socialisé les femmes et les petites filles avant elles pour être sur ces activités déjà dans la sphère domestique. Donc d'une certaine manière, la sphère domestique socialise à des métiers qui sont peu reconnus ensuite dans le monde du travail.
Il faut tout casser dès la base, dès la cellule familiale, dès l'école pour essayer de reconstruire de nouvelles visions et
absolument.
De nouveaux
cadres. Il faut transformer les manières de socialiser la petite enfance autour de la manière par laquelle on assigne les gens et les genres à des activités et à leur prise en charge.
Il y aurait autre chose à faire. Une grande grève des femmes. Alors, là, qu'est-ce qui se passerait ? L'économie s'arrêterait ?
En effet, non, mais c'est vrai que c'est souvent une manière de penser ce qui a de la valeur. On l'a vu avec le Covid, tout s'est arrêté, mais il y a des choses qui étaient indispensables. Mm-hmm. Eh bien, considérer qu'on fasse la grève comme l'ont fait d'ailleurs, et l'ont proposé Sylvia Federici dans les années 70, comme il en a été question tout à l'heure, c'est en effet une manière de montrer en creux que ce sont des activités absolument dispensables pour faire fonctionner le système, comme, à leur manière, des grèves des cheminots montrent qu'une fois que le système s'arrête, le capitalisme s'arrête avec lui, d'une certaine manière. Donc, on a intérêt à faire fonctionner des activités de soins, des activités qui permettent au capitalisme de continuer de fonctionner, dans des conditions les moins désastreuses possibles.
Sa fiche de poste dit « responsable de micro-trottoir », mais lui se voit plutôt comme un marchand de bonheur. Car comme il aime à le répéter, il fait bien plus qu'interroger les gens dans la rue, il leur offre la possibilité de le rencontrer en vrai. Quentin, une fois de plus, vous allez offrir du plaisir aux passants.
Ça arrive.
Eh oui, j'imagine.
Ça arrive.
En les interrogeant sur cette notion de travail reproductif.
J'arrête deux copines retraitées qui partent pour une séance de ciné ensemble. Leur choix s'est arrêté sur Gourou avant qu'elles ne rentrent dans le cinéma. Marie-Noël et Sylvia découvrent le thème qu'on a choisi pour commencer la semaine dans Zoom Zoom Zen.
Travail reproductif. Les nouvelles technologies, les réseaux.
Non, on en a parlé pendant le Covid, vous vous souvenez de ça ?
Les soignants ?
Ah ben oui, et les enseignants aussi, non ?
Pas que. Notre invité dit que l'un des piliers invisibles du capitalisme, donc de notre société, ce sont ces métiers qui font que les autres peuvent travailler. C'est-à-dire une femme de ménage à l'hôpital.
Une auxiliaire de puériculture en crèche.
Exactement, et il y en a des dizaines comme ça. Marie-Noël me parle des caissières, particulièrement mises en avant durant le Covid.
Quand j'ai au Monoprix, moi j'habite en au-dessus du Monoprix, alors c'est facile. Donc c'est que des étrangères qui travaillent là, capverdiennes, portugaises. Enfin, je discute souvent avec elle.
Pourquoi c'est lié à l'immigration, à votre avis ?
Parce que je pense que c'est des métiers qui s'assimilent rapidement et que du coup, les gens arrivent et il faut qu'ils trouvent du boulot tout de suite. Donc, on fait les boulots que personne ne veut faire, en fait. Hein. C'est un peu schématique, mais...
Ça vous agace, vous ?
Ça dépend des jours. Il y a des jours où je ne les vois pas, en fait. Tu ne peux pas te mettre à la place des gens tout le temps et que des fois, je suis à la caisse et je ne fais pas attention, en fait. Je pense à autre chose. C'est pas bien.
Et c'est honnête de le dire comme ça. Les premières lignes, on ne les regarde pas toujours comme invisibles. Ce monsieur marche avec un diable qui transporte un petit carton qui a l'air assez lourd. Il semble chercher son chemin. Je fais la connaissance de Kamal.
Je suis agent socio-éducatif. On aide les personnes à s'insérer, ceux qui n'ont pas de loyer, de logement, de travail, de papier, tout ça, ouais.
Il découvre à travers l'écran de mon téléphone le sujet qui nous intéresse aujourd'hui.
Ouais, travail reproductif, c'est des métiers essentiels, importants, basiques. Les métiers du SMIC, par exemple, la manutention, la sécurité.
Les agents de sécurité, par exemple ?
Oui, des magasins, du gardiennage.
On se fait la même réflexion tous les deux, ils sont souvent liés, ces métiers, à l'immigration.
Oui, c'est souvent oui, bien sûr. C'est lié à l'immigration parce que la plupart d'entre eux ne sont pas formés, ne sont pas diplômés, les diplômes ne sont pas reconnus en France. Ça s'appelle du boulot alimentaire. C'est des gens qui travaillent pour manger, pour payer leurs factures.
Et souvent, la rémunération, elle ne suit pas.
Non, ça ne paye pas. Les métiers de plonge, de restauration, tout ça, là, ça ne paye pas. Les femmes de ménage ne sont pas bien payées. Hein. Comme on a dit, le ménage, si on ne fait pas le ménage dans les bureaux, les gens ne peuvent pas y travailler.
J'arrête maintenant cette femme qui porte le hijab. Elle s'apprête à prendre le métro.
Bonjour, monsieur. Je suis responsable du périscolaire à la ville de Paris.
Nous parlons des métiers en première ligne.
Il y a plusieurs métiers, que ce soit le métier dans le domaine médical, dans le domaine scolaire. C'est des métiers où si on n'est pas là pour s'occuper des gens, ça ne fonctionne pas. Quoi qu'il en soit, on en aura besoin. Que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain.
Le problème, c'est que c'est un pilier invisible du capitalisme, mais que c'est pas celui qui rapporte le plus.
Non, pas vraiment.
Combien gagne une assistante en périscolaire ?
Oh là là, à peine le SMIC. Donc c'est comme ça.
Ma dernière rencontre, c'est Axel. Il est assis sur les tubes métalliques marrons auxquels on accroche les vélos d'habitude. Il roule une cigarette entre ses doigts.
Travail reproductif. Bah écoute, pour en avoir fait pas mal quand j'étais un peu plus jeune, c'est des métiers où t'es mal payé déjà.
De quoi on parle comme métier ?
Bah moi j'étais déménageur, donc je sais pas si ça rentre exactement dans la définition, mais c'est des métiers de service, on va dire, qui vont pas être les mieux payés, les mieux représentés, on va dire, et qui permettent évidemment aux autres de profiter de pas mal de choses. J'avais l'impression quand même de beaucoup bosser, de faire un boulot assez physique et finalement de pas avoir une rétribution forcément en adéquation quoi avec le taf que je faisais.
Pour lui, il y a quelque chose de très français dans ce genre de métier, une question de vision.
Moi, je suis franco-suédois, donc j'ai pas mal de famille en Suède. Je sais que là-bas, les gens, les jeunes... je pense qu'en France, il y a un truc aussi, c'est qu'on pousse les jeunes à se mettre aux études très très tôt, avec tout ce qui est post-bac et tout. Pas mal pouvoir participer et faire des petits boulots quand on est jeune, c'est assez formateur finalement, si bien sûr on est payé de manière raisonnable. C'est vrai que c'est un système que je trouvais intéressant, où là-bas, par exemple, bosser en supermarché et tout, c'est pas quelque chose de mal vu socialement. C'est assez normal.
Nettoyer, soigner, nourrir, réparer, accompagner, des gestes répétés, indispensables mais rarement valorisés, un travail qu'on applaudit en temps de crise, puis qu'on oublie dès que la situation revient à la normale, invisible, mal payé, souvent délégué aux autres, mais sans lequel aucune journée de travail ne pourrait tout simplement commencer.
Merci Quentin. Florence, Jeannie Catrice, je reviens sur ce que disait Kamal dans ce micro-trottoir. Parce qu'on a beaucoup axé sur les femmes, à raison. Mais est-ce que ces métiers, ce travail reproductif, il concerne aussi les hommes? Les métiers cités, manutention, gardiennage, sécurité, la plonge dans les restos, souvent des hommes. Est-ce que la différence, elle est vraiment sexuée ou c'est plutôt l'immigré, l'immigration
après,
qui vit?
La question se pose de savoir ce qui, dans ces métiers, mais je ne vais pas le faire, peut être considéré véritablement comme une activité de reproduction sociale ou une activité d'accompagnement du système de production et de l'activité économique. Vous voyez.
Nuancez les deux,
donc,
d'accord.
Je ferai bien la nuance entre les deux et je continue de penser et de défendre l'idée que les activités de reproduction sociale, véritablement, c'est-à-dire celles, comme il l'a été dit, qui sont beaucoup des activités de care, c'est-à-dire de prendre soin des autres, d'être dans l'interaction sociale, sont des activités qui sont essentiellement réalisées par les femmes, souvent à temps partiel. Donc, par exemple, dans le périscolaire, certes, c'est du SMIC, mais comme c'est du SMIC à temps partiel, c'est plutôt.
Ça fait vraiment du
800-900 euros par mois pour l'essentiel, quoi. Donc c'est vraiment des petits salaires.
Peut-être un mot sur Axel qu'on vient d'entendre qui parlait de la Suède et de la vision de ce genre de métier. C'est vrai que c'est quelque chose de français.
C'est très intéressant ce qu'il évoquait. Je vais le prendre sous un autre angle, mais c'est vrai que le modèle suédois, du point de vue des activités féminines, il est très différent du modèle français pour deux raisons. Parce que d'une part, les conventions d'égalité en Suède sont beaucoup plus fortes qu'en France. Et donc il y a beaucoup plus de partage des tâches au sein de la sphère familiale entre les hommes et les femmes. En France, on a 4 heures de travail domestique par les femmes pour 2 heures par les hommes. Autrement dit, les 2/3 sont encore largement réalisés par les femmes. Et deuxièmement, il y a aussi des conventions de durée du travail qui sont plus faibles pour les cadres en Suède qu'en France. Alors qu'en France, les cadres travaillent des très très longs horaires et donc d'une certaine manière, il y a une double inégalité qui s'accentue en quelque sorte. Et puis dernier point, en Suède, tous les métiers de soins, par exemple d'aide à domicile, sont pris en charge par les collectivités territoriales et c'est des métiers de la fonction publique territoriale, alors que chez nous, c'est des petits métiers qui sont souvent financés, surtout dans les grandes villes, dans du gré à gré, avec de la protection sociale qui est quand même très très fragile.
Et comment ça se passe aussi dans les autres pays ? J'ai l'impression qu'on prend toujours la Suède comme exemple, qui pour le coup a l'air d'être un très bon exemple, mais je sais pas, par exemple aux États-Unis ou dans des pays d'Asie ou...
Alors en fait, on a plusieurs modèles. On a un modèle, alors ça remonte un petit peu dans mes travaux, mais on a quand même un modèle très anglo-saxon qui est vraiment fondé sur les inégalités. Et d'ailleurs, on avait un moment où on se disait, dis-moi combien tu as d'emplois de ménage dans ton pays et je te dirai quel choix de société tu fais. Et dans ces pays-là, il y a une division du travail extrêmement forte et donc on sous-traite tout sur le marché du travail et on a des petits jobs d'emploi de femmes de ménage, par exemple.
Donc toujours divisé aussi entre les hommes et les femmes.
Et toujours extrêmement, avec une inégalité homme-femme qui est extrêmement exacerbée, peut-être encore plus que dans les milieux, dans les mondes continentaux comme la France ou l'Allemagne. Et puis on a le des mondes un peu familialistes comme dans les pays d'Europe du Sud, comme l'Espagne ou l'Italie, etc. Et où là, la famille prend encore en charge énormément de choses, où beaucoup d'activités sont encore faites sous l'angle d'une régulation par le travail au noir, quoi, par exemple.
Surreprésentation des femmes aussi, surreprésentation des immigrés dans ces...
Alors en effet, il y a une surreprésentation des immigrés parce qu'il faudrait rajouter une des raisons pour lesquelles c'est des métiers aussi peu rémunérés, parce qu'ils ont une double peine, ces métiers. Ils sont peu rémunérés, mais ils sont aussi avec des conditions de travail extrêmement dégradées. Et ce sont des conditions de travail extrêmement dégradées qui ne sont pas compensées par un supplément de salaire. Il y a de nombreux métiers, je pense, je sais pas, au nucléaire ou des métiers qui sont compliqués, qui sont dominés par les hommes et dans lesquels, quand il y a des conditions de travail dégradées qu'on arrive à faire reconnaître, elles sont payées par un supplément de salaire. Là, on a des métiers extrêmement émiettés avec très peu syndiqués et donc à la fois ils sont dégradés et avec des conditions de travail faibles et donc ils sont pris en charge par celles et ceux qui en ont absolument besoin et qui sont disponibles pour cette double dégradation d'une certaine manière.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
J'ai retrouvé un vieux mail. Ce matin, j'ai été victime d'un odieux coup monté visant à m'empêcher d'aller livrer mon billet subversif à l'antenne de la matinale. En effet, un mur a été dressé pendant la nuit entre mon bureau et le studio par des ouvriers vicieux. Merci de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'abattre ce mur qui n'a pas lieu d'être, afin que je puisse faire mon métier. Mathieu Noël, 12 septembre 2022.
C'est vrai ?
Ce mail prouve une chose. Les gens en position de pouvoir ne sont pas toujours les plus futés. Vous ne serez donc pas surpris de découvrir dans le quiz du jour les exigences les plus saugrenues des grands de ce monde à l'égard du petit personnel. Jouons au Zoom Zoom Test, sachant que Quentin démarre avec 3 points de pénalité pour insubordination tout à l'heure. Ah, vous pouvez tout à fait remporter.
On peut rappeler quand même que ce mur était une porte coulissante
anti-feu.
J'appelle ça un mur et j'ai failli ne pas pouvoir aller à l'antenne. Les responsables seront châtiés.
J'ai 3 points ? Non mais je vais pas jouer moi.
Oh, bah si,
Quentin, arrêtez, on dirait ma fille de 4 ans. Ouais, vous jouez, un point c'est tout. On démarre, c'est quasi contractuel, aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes en 1996. Air Force One vient de se poser sur le tarmac de Washington. Cyril Lacarrière, l'agent à tout faire du FBI affecté à la sécurité du président Clinton, termine ce qui sera sur ce vol sa seule et unique mission, re-remplir la boîte de cigares du président. Le coquin en a encore utilisé 3 et pas forcément pour les fumer. Émoji clin d'œil. Clinton vient donc de passer 8 heures de vol à côté de Cyril, qui l'escortera même jusqu'au bureau ovale. Et pourtant, si vous montrez aujourd'hui une photo de Cyril à Bill Clinton, ce dernier s'exclamera certainement « Who the fuck is this guy ?» D'après vous, pourquoi ? Parce que Bill Clinton vient d'être diagnostiqué Alzheimer, on l'a appris hier. À cause de la règle de la danse de l'invisibilité préconisée à la Maison-Blanche.
Ou à cause
de la règle qui impose aux employés du président des États-Unis d'éviter tout contact visuel avec lui, sauf si le président leur adresse la parole en premier.
B.
Il y a un truc un peu monarchique là-dessus, non ?
Non, mais c'est pas possible d'inventer ce truc de la danse, là.
La danse ? Vous êtes pour la danse invisibilité ?
Non, moi je suis pour le.
Pour le C.
Les yeux,
moi,
ouais.
J'ai pour le B.
À vous deux, vous aviez la bonne réponse.
Ah,
aucun de vous n'a la bonne réponse.
Il faut dire,
Et oui, Cyril a eu beau escorter Bill Clinton plus d'une fois, si l'ex-président américain le croisait aujourd'hui, je veux dire ailleurs que dans les dossiers Epstein, où ils sont tous les deux cités 800 fois, eh bien, Bill réagirait comme Cadmérade. La fois, il m'avait croisé dans le couloir, il se dirait « Qui c'est ce mec ?» Car à la Maison-Blanche, les employés suivent le protocole de la danse de l'invisibilité. Quand un membre du personnel croise le président ou la première dame, il doit s'arrêter immédiatement, se plaquer contre le mur, rester immobile et silencieux jusqu'à ce que la famille soit passé. Et bien sûr, éviter tout contact visuel, l'objectif est que le président et sa famille aient l'illusion d'être seuls dans leur demeure. Une information révélée par la journaliste Kate Anderson Brower dans son enquête The Residence, parue en 2015. Mais attention,
c'est sourcé en plus. Hein.
Parce que je sentais que Manon allait dire que c'était une connerie.
Alors non, parce qu'on m'a soufflé dans l'oreillette qu'effectivement il y avait un truc faux. Le contact visuel, c'est faux. Voilà, je le précise.
Très bien. Alors vous ne précisez rien du tout. S'il n'y a pas un fact-checking en bonne et due forme, je n'accepterai aucune. Vous perdez 3 points. Vous êtes à égalité avec Quentin. Les compteurs sont remis à zéro.
C'est fou ça.
On
ça dit quelque chose, on lui parle pendant le quiz.
C'est suspect, je suis d'accord avec vous, c'est
toujours
suspect.
Pareil.
Top, quittons la Maison Blanche pour Buckingham Palace. À la rencontre d'un métier reproductif à haut risque, où la moindre erreur, fût-elle minime, peut vous coûter votre poste, majordome du roi Charles III, dont la journée démarre sur les chapeaux de roue, plutôt comme on dit là-bas, on the hats of wheels. Car la première mission du majordome personnel de Charles III est peut-être plus technique et ne supporte aucune approximation. Chaque matin, avant le lever du roi, il lui faut préparer son dentifrice, ce qui consiste à le réchauffer légèrement au bain-marie afin qu'il soit plus fluide, empresser exactement 2,5 cm sur la brosse à dents royale, the royal toothbrush, Ou en ouvrir un tube neuf chaque jour afin que le dentifrice ne s'oxyde jamais.
Les trois.
B.
C'est une bonne réponse de Quentin. Lui qui prend la main. Dommage. Incroyable. Retour de Quentin dans ce quiz. Le rituel du dentifrice. Une parmi les nombreuses exigences du souverain anglais. Sacrément tatillon, dirait Stéphane Bern. Pas à moitié chiant, dirait Manon. Selon l'ancien majordome de Buckingham Palace, Paul Burrell, Sa Majesté exigerait également de voyager avec son propre matelas, sa propre lunette de WC et même son propre papier toilette Kleenex Velvet. Preuve qu'on peut être roi et avoir un goût, c'est le cas de le dire, de chiottes, puisque chacun sait que le meilleur papier toilette, c'est le Lotus Just One.
C'est vrai.
Mais pas de placement de produit, direction...
C'est le plus épais. Hein.
Direction la Sardaigne, Quentin. La Sardaigne, nous sommes au large de Porto de Cervo, la ville la plus hype de l'île, sur le Lui of the Seas, le sublime trois mâts du tonton de Quentin, Spencer Lui, voilier à côté duquel le Phocéa passe pour un bateau Playmobil. Les 18 membres d'équipage sont sur le pont, car il est 8h30 du matin, il faut absolument que tous les journaux soient repassés avant le réveil du patron. Oui, vous avez bien entendu, il faut que les journaux soient repassés.
Toute D'où ma question,
pourquoi les super riches demandent parfois à leurs gens de repasser leur Figaro? Car on va pas se mentir, ça lit rarement l'Huma sur un yacht. Pour éviter de se salir les mains avec l'encre? Pour éliminer les bactéries déposées par les mains de tous les pauvres qui ont touché le journal avant? Ou parce que ça a plus de gueule, tout simplement?
A et B? L'encre.
Une seule bonne réponse. Deux bonnes réponses. A et B? Oh oui, Quentin, bravo! Oh Quentin, quelle remontada!
Il a lu à travers, c'est possible. Fou,
hein. Réponse A, mais ça reste le problème.
Je vois quand vous mentez.
Non, mais ce qui est quand même dingue, c'est qu'on ne me laisse pas juste parler et avoir les bonnes réponses. On remet en doute constamment.
Mais moi, Quentin, je n'ai rien remis en doute.
Quentin,
c'est Manon qui essaie de vous déstabiliser.
C'est fou, hein.
Si vous avez triché, dites-le en revanche.
Non, je n'ai pas triché.
Ça reste le problème, même avec les meilleurs quotidiens, même le Figaro et les Échos sont invariablement souillés par toutes les mains des pauvres qui les ont tripotés avant que le milliardaire puisse s'en délecter en dégustant ses œufs brouillés aux truffes bien mérités. Un métier qui cependant tend à disparaître depuis que les riches aussi lisent le journal sur l'iPad, maudite tablette qui pique le boulot des majordomes. Encore une attaque contre le travail reproductif. Victoire sublime remontada.
Sublime.
De Quentin.
Triche, vraiment, je suis
vraiment. Non.
On vous donne des informations dans votre oreille.
Quand il y a des fake news qui sont dites à personne,
c'est quand même incroyable.
On est la première radio de France. Oui,
et pourquoi que vous fake news possible. Merci. Dans le Zoom Zoom test, Manon. Ne dites pas n'importe quoi. Les derniers seront les premiers, disait Dieu, et aussi Céline Dion, ce qui revient au même.
Les derniers seront les premiers.
Comme au quiz.
C'est toujours bon d'écouter un peu Céline Dion.
Je n'aime pas cette chanson.
C'est Jean-Jacques Goldman, évidemment.
D'accord, mais c'est laquelle chanson?
C'est Les Derniers sont les premiers.
Ok.
Manon, votre culture musicale est vraiment...
Si elle s'arrête à Pour que tu m'aimes encore, en soirée très tard...
Bref.
Alors, en attendant, les derniers trinquent encore pas mal en ce moment. On continue de zoomer sur la notion de travail reproductif avec l'économiste Florence Janicatrice. Florence, il faut être clair, sans le travail reproductif, c'est la fin du capitalisme. Ça, c'est ce que les capitalistes oublient peut-être un peu vite.
Sans le travail reproductif, en tout cas, il n'y a pas de possibilité de renouveler la force de travail et donc d'avoir de la production marchande et d'avoir une activité économique, de toute évidence. Oui, c'est une condition de possibilité du capitalisme. Et comme on l'a dit tout au long de cette émission, c'est un travail extrêmement invisible, invisibilisé et très peu rémunéré lorsqu'il l'est, puisqu'il y a aussi tout ce pan de travail gratuit qu'on a évoqué rapidement.
Est-ce qu'il faudrait donner un statut à ces travailleuses qui sont en première ligne, un statut global?
Un statut global du travail reproductif, je ne pense pas. Travailler notamment pour faire reconnaître les compétences qu'elles mettent à disposition dans des métiers qui nécessitent souvent beaucoup d'autonomie, de prise de responsabilité et d'initiative, ça serait le minimum. Il y a un certain nombre de chercheuses qui essayent de mettre en place des grilles de rémunération où on pourrait avoir des rémunérations équitables, toutes choses égales par ailleurs en termes de compétences. Parce qu'évidemment, ici, on a souvent des métiers qui sont que féminins, donc c'est difficile de redresser comme ça le travail. Il faudrait sans doute aussi que ce soit des métiers qui soient plus protégés par de l'action collective, par de la syndicalisation, parce qu'il faut
c'est
le reconnaître, les syndicats aussi ont leur part de responsabilité. Pendant longtemps, ils ont considéré comme rentables aussi les activités industrielles, parce que c'était là où il y avait les gros effectifs, en quelque sorte. Et les métiers féminins sont souvent plus émiettés, ils sont pas tous au même endroit, donc c'est difficile de les mobiliser. Mais c'est évidemment les deux grandes questions qui doivent être posées.
Est-ce que l'IA peut changer la donne? On dit que l'intelligence artificielle va bousculer le monde de l'emploi, qu'elle va détruire certains emplois, en créer d'autres peut-être. Est-ce que ça peut avoir un impact sur ce travail qu'on appelle reproductif?
C'est toujours difficile de parler en termes prospectifs, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce sont des métiers qui sont quand même caractérisés par une très forte densité de relations interpersonnelles et de relations sociales. Et donc, autant l'IA, on voit bien le type de d'activité presque cognitive qu'il peut éventuellement remplacer, mais sur ces activités qui nécessitent vraiment de la relation interpersonnelle, mis à part, ils mettent des robots comme un peu dans les pays asiatiques où on sent qu'il y a des prémices d'éléments comme ça qui peuvent arriver. L'automatisation, par exemple, qui a quand même emporté toute une partie de l'emploi ouvrier à la fin du XXe siècle, n'a pas du tout emporté ces métiers. Bien au contraire, il les a plutôt multipliés. Et donc, je pense que c'est pas la grande menace qui pèse sur ces métiers. Il y en a bien d'autres qui pèsent sur eux et sur elles surtout, mais pas tant que ça l'IA.
Au-delà de la dimension très genrée de ce travail reproductif, est-ce qu'il faut aussi intégrer, on l'a entendu dans le micro-trottoir, une dimension un peu ethnique? Beaucoup de postes sont occupés aujourd'hui par des personnes immigrées. C'est une réalité. Sans femmes, tout s'effondre, mais sans immigration, tout s'effondre aussi.
Alors oui, c'est vrai. Sans femmes et sans immigration, tout s'efface ou tout s'effondre pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est-à-dire que on a vraiment des emplois de la double peine, c'est-à-dire des emplois peu reconnus, peu valorisés et dont les conditions de travail souvent très dégradées et des métiers pénibles sont pas compensés par un supplément de salaire. Et cette triple dégradation presque, ou cette triple peine, fait que ce sont des métiers qui sont souvent pris en charge par des personnes issues de l'immigration, en effet. Alors, il y a des féministes qui évoquent ça sous l'angle de l'intersectionnalité, c'est-à-dire qu'on a à la fois la problématique des inégalités de genre et des inégalités de race qui traversent l'ensemble de ces métiers de la reproduction.
Vous écoutez Inter, il est 16h47. L'heure d'ouvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Un film.
J'en ai marre d'entendre parler de la crise, du chômage, de la précarité, d'une façon abstraite. J'ai besoin de voir, de partager le quotidien, pour voir ce qui se passe vraiment.
Vous entendez la voix de l'actrice Juliette Binoche dans le film réalisé par Emmanuel Carrère, Ouistreham. Il est sorti en 2021. Il est adapté du livre de la journaliste Florence Obna, Le Quai de Ouistreham, sorti en 2010 et qui avait énormément fait parler de lui. Et pour cause, Florence Obna a réalisé une enquête où pendant 6 mois, elle s'est fait passer pour une femme démunie qui enchaîne les travails précaires. Son but est de comprendre l'impact économique sur ces personnages et leur exclusion sociale. Des personnes qui sont, on l'a dit, invisibilisées par la société alors qu'elles sont à côté de nous. Parmi ces nombreux emplois, l'un d'eux consiste à nettoyer les ferries, assurant la liaison entre Caen Ouistreham et Portsmouth, d'où le titre de l'ouvrage. Le film d'Emmanuel Carrère reprend le même pitch, à la différence près que Juliette Binoche n'est pas journaliste, mais elle est écrivaine. Le film suit son parcours, le personnage de Marianne Winkler, qui décide de se faire passer pour une demandeuse d'emploi pour enquêter sur les conditions de travail des travailleurs précaires. Elle trouve des missions de ménage dans des hôtels, sur des ferries et chez des particuliers. L'action se déroule donc à Ouistreham, ville portuaire de Normandie. Le film montre un quotidien fait de contrats courts, de galères, d'horaires difficiles, de pénibilité physique et surtout d'une instabilité permanente. Des emplois indispensables mais faiblement rémunérés et peu reconnus. La particularité du film, c'est qu'une grande partie des rôles secondaires est tenue par des acteurs non professionnels, souvent issus de ces milieux. C'est le cas notamment d'Hélène Lambert, agente d'entretien dans la vie, qui interprète le personnage de Christelle, une collègue et amie de Marianne. Elle joue donc un rôle très proche de sa propre réalité et elle dit à plusieurs reprises que des situations présentées à l'écran étaient des situations qu'elle vivait réellement. Pour elle, il faut que les sociétés fassent en sorte qu'elles ne soient plus invisibles. Elle dit, je la cite, « Si nous ne sommes pas là, vos bureaux ne sont pas propres, donc on peut travailler ensemble et pas forcément la nuit. » Le film dénonce tout un système et rappelle que la précarité ne concerne pas seulement les personnes sans emploi, mais aussi une partie croissante de celles et ceux qui travaillent.
Merci Manon. Florence Jenny-Catrice, d'un mot, est-ce que Ouistreham, c'est le film à voir pour comprendre et se prendre en pleine tête ce que c'est le travail reproductif?
Absolument, c'est un film absolument remarquable. Vraiment, c'est un très bon choix. Une partie de la revisibilisation, en effet, des travaux, en particulier des ménages, peut passer par le fait qu'on n'impose pas à ces femmes de venir travailler quand les personnes ne sont plus au travail eux-mêmes.
Et ça, on voit que
ça c'est
pas
juste
miracle.
Une organisation et ça permet de revaloriser aussi les tâches qu'elles réalisent. Mais, et pour un ensemble d'autres tâches, de toute façon, elles se font que dans l'interface avec les personnes. L'aide à domicile, il faut bien qu'il y ait à la fois la personne âgée dépendante et la salariée.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
À la question, Pierre Courade, qui frime beaucoup, est-il vraiment aussi cultivé qu'il le prétend? La réponse est tombée la semaine dernière, sèche comme un coup de règle de Cyril sur les doigts de Gérald quand il a oublié le sucre dans son café. Non, Pierre bluffé. Comme en atteste son triste bilan, dans le Zoom Zoom Test, 3 participations, 3 défaites.
J'ai été volé.
Faut-il pour autant se séparer de lui, comme le suggérait Quentin? Je ne le crois pas, en tout cas pas aujourd'hui, puisque c'est son anniversaire. Ne soyons pas cruels. Bon anniversaire. Marcel.
Merci.
D'autant qu'il entre dans la quarantaine.
Vous voulez qu'on chante? On n'a peut-être pas le temps.
Non, surtout pas vous.
Merci.
Ce ne serait pas un cadeau.
Il fait beau sur Paris. Mon cher Pierre, résumez-nous tout ce qu'on s'est dit sur le travail reproductif en une minute chrono.
Bah oui, ce sont des métiers indispensables, ces métiers reproductifs, mais qui sont dévalorisés sous prétexte qu'on n'en voit pas, qu'on en voit que la partie immergée de l'iceberg, un peu comme ce petit carnet d'une minute chrono. On en a parlé avec ce travail reproductif avec notre invité, l'économiste Florence Janicatrice. Il concerne plus sérieusement les métiers qu'on appelle de première ligne. On les a appelés ainsi pendant la pandémie de Covid. Toutes les professions du soin, infirmières et de soignantes, aide à la personne, les métiers de l'entretien et du ménage, l'école aussi. Des métiers indispensables, mal payés et souvent attribués aux femmes. Ce sont ce qu'on appelle aussi les métiers du care, du bien-être, qui contrairement aux métiers productifs ne sont là que pour soutenir en sous-main l'économie. Tellement en sous-main qu'on pourrait y intégrer les tâches domestiques pour le coup totalement gratuites, mais là aussi réalisées majoritairement encore aujourd'hui par les femmes. Ce travail gratuit représente pourtant 60 milliards d'heures par an. C'est le double du temps de travail rémunéré, nous a dit notre invité. Ce qui est pratique, c'est que ça ne coûte pas grand-chose donc, et ça rapporte gros puisque ce travail reproductif permet d'être en bonne santé, d'être bien éduqué et de vivre dans un quotidien confortable. Autrement dit, si les femmes faisaient grève, eh bien, tout s'arrêterait. Le problème, c'est que ces activités sont souvent pratiquées en temps partiel, peu qualifiées, ne peuvent pas se faire en télétravail, sont assignées aux femmes dès la petite enfance. C'est la triple peine, nous a dit Florence Janicatrice. Le travail reproductif, encore un héritage invisible du patriarcat. Et là, j'entends que la musique a été coupée.
C'est comme
Cyril Lacarrière.
C'est comme les Oscars, Pierre.
Merci, Ali. Je pensais qu'on était amis. Je vous laisse là-dessus.
Quel triste anniversaire. Quel anniversaire le plus triste que j'ai vécu dans ma vie. Merci quand même, Pierre Courade. Marine Léonardi, vous avez été un peu gênée par le sujet.
Oui, j'ai été gênée parce que j'ai d'abord cru qu'on allait enfin parler du taf que c'est de se reproduire. Non, pardon, on n'en parle pas assez, surtout que passé 30 ans, t'es obligé de te bourrer aux hormones plutôt qu'à la tequila. Après, tu restes 4 heures, là, les jambes en l'air pour espérer que les 3 spermatozoïdes viables de ton idiot de mec trouvent le bon chemin. Ah bah oui, bah, ils sont comme lui, ils ne trouvent rien, qu'est-ce que tu veux? Alors, nous rémunérer, alors là, j'étais bien contente parce que je peux te dire que si j'étais payée 10 balles à chaque fois que je me mettais à genoux, ça couvrirait enfin mes séances d'ostéo. Enfin, une séance d'ostéo, faut pas déconner non plus. Oui, j'ai d'autres priorités dans la vie que de purger des robinets. Et puis j'ai compris qu'il était question de rémunérer potentiellement le travail domestique. Alors là, les amis, attention, faites très très attention. Parce que si on accorde ça aux femmes, faudra aussi l'accorder aux hommes. Et là, moi, je vous le dis, c'est sans moi. Ah non, payer au SMIC mon mari pour qu'il confonde la brosse à chiottes avec le balai suifeur, c'est mort. Non, ça part en une dégradation immédiate de mon confort de vie, c'est non. Enfin, vous me direz. Enfin, un job où tu peux coucher avec ton collègue en étant toute la journée en télétravail. Le rêve de Pierre Courade. Après, bonne nouvelle. L'écart sur les tâches domestiques entre hommes et femmes s'est réduit de 20% ces dernières années. Pas parce que les hommes en font plus, mais parce que les femmes en font moins. Alors c'est sûr que quand tu dis à ton mari « Ce serait chouette quand même de prendre une aide ménagère » et que le gars te répond « Bah pourquoi? C'est propre chez nous. » Véridique, c'est du vécu. Bon bah tu te dis qu'on va peut-être ralentir un peu la cadence. Comme ça, il va vivre dans une porcherie, ça te fera réagir. Je plaisante, ça ne changera rien. Quiconque a déjà vu un gars envisager de retourner un caleçon le sait très bien. Non, messieurs, les caleçons, c'est comme les mères de famille de plus de 40 ans, ça ne se retourne pas. Oui, je fais passer des messages. En réalité, la vraie raison de cette réduction d'écart est le recours à des tierces personnes, souvent racisées, ce qui souligne un fossé qui se creuse entre les femmes CSP+ et les autres. Et non, Cyril, pardon, mais exploiter Quentin gratuitement pour tondre le jardin le week-end ne fait pas de toi un progressiste. Même s'il ressemble à un gnome, c'est pas simple. Le travail...
Je vous tonce.
Le travail... Il faut voir de quel jardin on parle. C'est
bien, bien, bien.
Le travail reproductif, c'est donc le travail qui est strictement nécessaire à la reproduction, comme les tâches ménagères. Pas du tout, pourquoi j'ai mis ça? À la reproduction? Oui, c'est ça.
Oui, ça marche aussi.
Dès que je vois du sexe partout, excuse-moi. Comme les tâches ménagères, s'occuper des enfants, répondre aux 483 mails de l'école. Alors pardon, mais les écoles, là, pourquoi on reçoit autant de mails tous les jours? Non mais un coup, il faut rapporter une machine à crêpes, un coup, il faut une sortie cinéma. Est-ce que vous pouvez accompagner? Non, on ne peut pas. Voilà, parce que le concept de l'école, c'est que vous vous en occupez. Le dernier souvenir que j'ai de mon daron qui m'a accompagné à une sortie d'école, c'est quand il est venu me chercher à la sortie de l'école. Et une fois sur deux, il repartait avec le mauvais gamin. Oui, de sexe masculin. Oh. Bon, après, non, mais, je peux pas lui en vouloir. Franchement, quelle gamine a une moustache et un monosourcil à 12 ans? À part Manon et moi, il y avait personne.
Tellement vrai.
Non, je suis désolée, je ne peux pas poser 5 RTT pour aller voir Zootopie faire de l'aquagym à lundi. Voilà, j'adorerais, mais après Cyril va m'appeler pour me dire que mes chroniques sont moins bien et je vais devoir lui expliquer que je suis allée en forêt de Rambouillet, écouter le chant des oiseaux, que j'ai croisé Mathieu qui faisait une partie de chasse à cours. Enfin, ça fout le bordel. En réalité, on aime bien l'idée du travail rémunéré quand on est une femme, encore plus celui d'un café qui serait gratuit. Mais les féministes noires ont dénoncé dans les années 60 cette vision du travail qui libère la femme, mettant en avant que les femmes noires ont souvent dû cumuler travail domestique et travail productif sans que cela ne libère personne. Pas faux, et quand on voit l'ice dans les rues, on se dit qu'en effet, il vaut mieux parfois rester à la maison.
Bon, ça termine en chronique politique. Ah ouais. Alors, on a fait un virage à 180 degrés. Merci Marine Leonardi. On vous retrouve la semaine pro dans Zoom Zoom Zen, et je signale à vos fans que vous serez à l'Adidas Arena le 5 mars 2027 et en tournée des Zéniths en janvier-février 2027, bien sûr, parce que 2026, non, tout ça est plein ça, depuis longtemps. Désolé les losers, il fallait être plus réactif, me disiez-vous, hors antenne. Merci Florence Janicatrice d'être venue nous expliquer ce qu'est le travail reproductif. Je signale deux de vos ouvrages, le dernier en date, Faut-il attendre la croissance, publié à la Documentation française, et un livre plus proche peut-être de notre sujet du jour, Les services à la personne, publié aux éditions de La Découverte. Zoom, zoom, zen.